Merci Jésus. Nous bénissons Dieu qui nous donne la vie ce matin et qui est au contrôle. Depuis hier, nous sommes en train de parler de la retraite personnelle. Aujourd'hui, nous voulons ajouter quelque chose que nous allons tirer dans les livres de Genèse, chapitre 24. Genèse, chapitre 24. Versets 62 à 63, ou alors on peut aller jusqu'au verset 66, Genèse 24, 62 à 66, j'ai lu au nom de Jésus. Cependant Isaac était revenu du puits de la Caïroi, et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Amen. Le deuxième texte, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 14. Matthieu, chapitre 14, du 22 au 33e verset. Matthieu 14, 22 à 33. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il raverait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque était déjà au milieu de la mer, était battue par des flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens Pierre. Pierre sortit de la barque et marchant sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Et ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je dis que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alors, nous sommes en train de parler de la retraite qui est comme une clé pour vivre une expérience personnelle avec Dieu. La retraite, elle est déjà personnelle et elle nous permet d'avoir une expérience personnelle avec Dieu. Et hier, nous avons essayé de montrer qu'il est important et indispensable que nous puissions réellement avoir des moments de retraite personnels. C'est déjà bon d'être dans une bonne église, une bonne communauté, Parce que la Bible dit, n'abandonnons pas nos assemblées, parce que c'est là que nous avons la vie. Et donc, la vie communautaire, la vie ecclésiastique, la vie en famille, en cellule, c'est déjà bon et c'est très important. Mais il faut grandir et passer à l'étape où on peut avoir des moments personnels avec le Seigneur. Hier, j'ai montré que nos communautés peuvent connaître des vents, peuvent connaître des difficultés. Et ce sont ceux-là qui ont aussi, au-delà de la vie de tout le monde ou de la communauté, ils ont aussi des moments personnels. Ce sont ceux-là qui survivent à de telles tempêtes. J'ai dit, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est bousculé. Et la tendance, c'est justement de nous ramener à une vie de solitude. Et celui qui n'aura pas développé de moments personnels avec Dieu va avoir du mal à garder sa foi dans ces moments ici ou dans les moments qui arrivent. Et la troisième chose, j'ai dit, il y a la réalité des épreuves. Nous rencontrons des épreuves qui ne portent pas parfois le nom de la communauté, de la famille, de la cellule. Ces problèmes nous rencontrent seuls dans notre coin. Et si on n'a pas développé les mécanismes de résistance, des mécanismes de relation personnelle avec Dieu, on se retrouve en difficulté. On ne sait pas s'équiper, on ne sait pas se ressourcer. Alléluia. Dans les livres de Josué chapitre 1er, si vous commencez au premier verset jusqu'au 8e, il y a toute une connaissance que Dieu transmet qui est indispensable. Dieu commence par donner une information bouleversante à Josué. Il lui dit, Josué, fils de Noun, mon serviteur à moi est mort. Voyez-vous qu'à Dieu vous informe de ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes en train de mener un deuil et Dieu vient vous informer que vous pleurez parce que votre pasteur est mort, mais je viens vous dire que c'est mon serviteur et il est mort. Et celui qui vous dit ça, c'est le Tout-Puissant. Celui qui vous dit ça, c'est celui qui a donné la promesse, qui a donné la provision même à Moïse pour dire, va, amène mon peuple à Canaan. C'est le Dieu qui a donné la mission à Moïse et il vient informer à Josué que mon serviteur est mort. À d'autres termes, je sais qu'il est mort. Je sais pourquoi il est mort. Je suis pleinement conscient qu'il a disparu et que tu n'as pas besoin de rester en train de pleurer. C'est comme pour lui dire, tu n'as pas raison de rester comme ça. Je sais, j'ai permis et je sais pourquoi j'ai permis cela. Et il lui dit, lève-toi, parce que c'est toi qui vas mettre ce peuple dans son héritage. C'est toi qui vas amener ce peuple à entrer dans son héritage. Tu dois te lever. Je mets le pays devant toi. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te donne la possession. Et plus loin, il lui dit, fortifie-toi. Prends courage. J'aurais bien voulu qu'il envoie Aaron pour dire à Moïse, voici, disons à Josué, voici, relève-toi, tu sais, Dieu nous avait parlé, d'ailleurs, lisons. Non, non, Dieu n'envoie pas un pasteur, Dieu n'envoie pas un frère, Dieu ne lui dit pas, je vais t'envoyer un prophète, il dit, puise dans tes ressources intérieures, fortifie-toi. Tu n'auras pas besoin des cultes. Tu n'auras pas besoin d'une prédication. Tu n'auras pas besoin d'un moment de louange à l'église pour que tu te relèves. Fortifie-toi. Prends courage. Puise de tes ressources intérieures. Il y a donc des moments où Dieu veut que vous puissiez être seul et vous ravitailler. Et ça, c'est important. Sur le chemin de la foi, vous devez avoir la capacité de vous ravitailler, car personne d'autre ne peut vous ravitailler.
Parce qu'il y aura toujours un moment où les pasteurs, les anciens de l'église, les frères et sœurs ne sont pas disponibles pour nous. Ils n'ont pas la mauvaise volonté, mais ils ne sont pas là. Et même Dieu permettra qu'ils ne soient pas là. Parce qu'il veut que nous ayons une expérience avec lui. Que nous soyons ses témoins, nous allons témoigner quoi. L'apôtre Paul est en train de dire ceci. Il dit, Dieu nous a établis à deux dimensions. Il nous a établis ministres et témoins. Ministre de Dieu et témoin. Ministre de la parole et témoin des œuvres de Dieu. Chacun doit avoir un témoignage avec Dieu. Chacun doit avoir, n'est-ce pas, quelque chose à dire de Dieu. Tout ce que vous avez déjà eu à réussir, vous devez tirer un principe qui devient une vie. C'est comme ça qu'on construit des familles fortes, des maisons fortes, où au finish, les enfants des enfants savent que pour réussir, il faut faire des offrandes à Dieu. Par exemple, pour Abraham. Pour réussir, il faut se réveiller tôt. Si vous avez dépassé la soixantaine, vous êtes en forme, vous devez être en mesure de dire à votre enfant que si j'ai quand même maintenu la santé, au-delà de la grâce, parce qu'elle est toujours là, je me lave à 5 heures, toujours l'eau froide. Vous devez quand même communiquer ça. Mais si vous dites qu'on est aimé, donc, je parle à quelqu'un. Bon, demande à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu as déjà réussi quelque part? Tu as déjà réussi? Qu'est-ce qui t'a fait réussir? Laisse la grâce. La grâce, elle est déjà là, c'est bon de reconnaître la grâce. Mais sur le plan pratique, qu'est-ce qui t'a fait réussir? Cela doit être un principe. Il faut tirer. Et c'est quand on a des moments de méditation qu'on parvient à détecter le principe qu'il nous faut réussir. C'est dans des moments de méditation qu'on arrive à détecter ce qui nous fait échouer. Il y a des choses qui se répètent dans nos vies et nous tombons toujours dans les mêmes pièges parce que nous réfléchissons moins sur ces choses. Nous avons peu de temps de passer à revue notre vie et dire ça, c'est ce qui est en train de détruire ma vie. Ça revient toujours. Et même les pasteurs sont là. Ce sont les mêmes lamentations, le même problème. Et on dit, mais on doit dire les mêmes conseils. Et on ne grandit pas. Pendant que les pasteurs devaient chercher des enseignements plus élevés, un conseil plus élevé, il est obligé de rester là en train de résoudre le même problème. Parce que le peuple n'a pas le temps de réfléchir pour qu'on passe. Vous savez, quand une église grandit, le pasteur est obligé de chercher Dieu. Si le pasteur ne grandit pas, c'est qu'il n'y a pas de retraite dans l'église. Une église où il y a des retraites, le pasteur, même s'il refuse de chercher l'onction, il va chercher ça. Il va chercher ça. Vous rencontrez un chrétien qui a fait une expérience avec Dieu dans sa retraite, tout à moins bien. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a pas de malheureux comme nous, les pasteurs. J'étais dans une église, le pasteur était en train de prêcher et il finit. Lui, il y avait vraiment des chrétiens réveillés. Ce sont des réveillés spirituels. Et il vient lui saluer après la prédication. Pasteur, oh, ça s'est passé sur MC. En tout cas, vous avez bien suivi la prédication. J'avais suivi ça aussi hier. Donc, le pasteur a suivi le message sur MC. Et le chrétien a suivi ça. Donc, c'était pour lui dire, tu n'as pas médité. Et si vous avez quatre chrétiens qui vous disent comme ça à la fin du sermon, vous allez commencer à chercher des messages. Vous n'allez pas commencer à copier-coller. Vous avez les messages que vous avez prêchés depuis 94. Vous continuez à amener ça, le même thème, le même verset, les mêmes exemples. Ça, c'est quand l'église ne grandit pas. Je parle à quelqu'un. Même dans une famille, si vos enfants sont en train de grandir, vous êtes obligé de consulter de temps en temps le dictionnaire. Il y a des fois où l'enfant parle, vous vous dites, mais cet enfant, bon, nous qui n'avons pas fait les maternelles, ça devait être compliqué. Et vous vous retirez un peu, vous fuyez le dictionnaire et vous grandissez. Gloire sera à notre Dieu. Dans la méditation, dans la réflexion, l'homme est capable de détecter le principe qui lui fait réussir. Et dès qu'on découvre le principe qui fait réussir, on pérennise la victoire.
En même temps, on peut méditer sur ce qu'on a échoué. Et quand on médite sur ce qu'on a échoué, on évite les erreurs. Pourquoi nous sommes à la même place?
C'est quand on n'est pas en train de méditer sur ce qui nous maintient là-bas. Et on ne découvre pas ce qui est caché. Et on n'évolue pas.
Au-delà de la méditation dans la prière, l'Église doit avoir des méditations de réflexion. Réfléchir sur la vie, réfléchir sur les grâces, les bontés de Dieu. Réfléchir sur la parole de Dieu. Il dit médite cette parole jour et nuit. Quand il dit médite la parole jour et nuit, à l'époque il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait même pas de Bible partout. On lisait la Torah pour tout le monde. C'était un jour solennel. On vient lire la Torah et les gens rentrent avec. À d'autres termes, quand Dieu dit, vous allez méditer la nuit, il est aussi en train de dire, vous allez être dans un moment calme où il n'y a pas la possibilité de lire, mais ce que vous avez attendu, vous ruminez ça à votre intérieur. Vous relisez ça, vous ruminez ça à l'intérieur de vous. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et ça, c'est la méditation. Et ça donne la victoire. Il dit, c'est alors que vous aurez du succès. Avez-vous déjà eu une retraite de réfléchir sur votre entreprise? En mettant votre entreprise ici et la parole ici. En voyant ce qui vous a fait réussir ou ce qui vous a fait échouer. Avez-vous eu une retraite de votre foyer, de votre famille? Vous mettez la famille ici, vous mettez la parole ici. Et voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Pourquoi il n'y a pas des actions de grâce familiales, des actions de grâce des entreprises? Parce qu'on ne réfléchit pas sur les victoires et arriver à reconnaître que non, Dieu, il nous a visités. Ou alors, ici, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Très souvent, nous sommes inconscients de ce qui nous a fait échouer. C'est pourquoi les échecs sont toujours là. Les mêmes conflits sont toujours là. Les mêmes combats sont toujours là. Les mêmes échecs sont toujours là. Et on finit par s'habituer à ça. Et malheureusement pour nous, dans la Bible, il y a tout ce qui nous encourage. Il va dire tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous allons rester là. Et la fenêtre est fermée. Quand ça ne marche pas, il dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Laissez ça. Mungwanadjou. Isaac sort pour méditer dans les champs. Seul. Et pendant la méditation, sa femme arrive. Il y a des meilleures choses que vous allez rencontrer quand vous sortez dans votre champ pour prier, pour réfléchir, pour méditer la parole, pour voir votre destinée. Nous ne vivons pas juste. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Je vais terminer mes études. Après, je vais me marier. Après, je vais construire une petite maison. Et après, bon, on va aider les enfants aussi à grandir. Et après, bon, et après on va mourir. C'est tout? Avez-vous déjà eu à réfléchir qu'à un moment donné, Dieu ne parlera pas des enfants parce qu'il y a eu des grands serviteurs de Dieu qui n'en ont pas eu. Vous connaissez la femme d'Élie? Vous connaissez sa femme? Vous connaissez la femme d'Élisée? Vous connaissez sa femme? Paul? Donc le problème, ce n'est pas de faire des enfants ou avoir des femmes. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui nous ont laissé un héritage spirituel. On ne parle pas de ce qu'ils ont eu à terme matériel. Mais aujourd'hui, la société est de plus en plus matérialiste que les choses importantes sont en train de s'envoler. Les valeurs chrétiennes s'envolent. À un moment, on avait commencé une expérience dans notre église, Arche de l'Alliance. et le département de couple a organisé ce que nous avions appelé mariage de grâce. Et on avait fait ce jour-là 24 mariages. On a fait la fête ensemble. On a organisé les civils pour tous ceux qui avaient été, qui n'étaient pas mariés. On les a accompagnés. C'est pas est-ce que vous avez déjà doté, est-ce que les civils, on a accompagné. Et c'était glorieux, c'était un culte où on a fait 24 mariages, les mêmes jours. On a fait la fête dans la même salle, c'était au collège. Et quelle gloire, même les bourgmestres étaient contents. Il a réduit les prix, on a dit non, tout à même, non, tous ces gens-là. Nous sommes en train d'aider l'État, Punguza Kwanz. Il a rabaissé le prix. C'était glorieux. Mais vous savez ce qui a suivi? C'est que nous avons remarqué que il y a des jeunes qui ont 28 ans, 22 ans, qui viennent dire, oh non, amin, libebecha, mimba, nisha, non, moi, mon attaque, c'est na injili, ça. Ah, ben, il va tout venir, qu'on a ma 50 ans, tout qu'on a récupéré. Vous venez comment? Vous étiez ici, on est en train de prêcher, vous étiez à la chorale, à l'intercession, on a chomoka, on a tout l'été à Bibi, naoto, tout le mariage de grâce. Et comme tchézoï. On a remarqué que c'est un piège. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, on ne veut pas passer par le chemin, on veut récupérer. Il y avait le mariage, c'était valable pour ceux-là qui ont fait des années, ils ont fait même des enfants. Benguine balikwa basha, ils ne mettent même plus au monde. Basha zeye kame odi, mais muta maliza maria, maisha ivi. Alléluia. Alléluia. L'église du Seigneur. Nous avons vraiment besoin de comprendre ces choses. Pour quatre raisons. La première raison, c'est que la retraite vous permet de grandir spirituellement. On ne grandit pas dans la foule, on grandit personnellement. C'est pourquoi même ceux qui sont dans la même école, ceux qui sont même des jumeaux ou jumelles, parfois la croissance est différente, disproportionnelle. La croissance, elle est personnelle. On peut avoir la même parole, mais chacun va croître de sa manière. On peut écouter la même parole, mais chacun l'applique de sa façon. La croissance spirituelle, qui va vous amener même à l'illumination spirituelle, l'ouverture de votre esprit, vient de ces moments-là que vous êtes en train de vous retirer. Et vous devez le faire. La croissance spirituelle. La deuxième chose, c'est que ça vous pousse à avoir une expérience personnelle avec Dieu. Vous pouvez avoir quelque chose à dire avec Dieu ou par rapport à Dieu. Vous pouvez dire, avec Dieu, je fais ça. Quand David dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il y a des choses que je dois dire, avec Dieu, je suis arrivé à ceci. Je suis arrivé à ceci. Je suis arrivé à ceci. Et ce que vous recevez dans vos moments personnels avec Dieu, vont vous. Et vous allez avoir un témoignage durable. La troisième chose, c'est que ça vous permet de faire face à beaucoup de défis et de tentations de la vie. Vous faites face à ça. Pourquoi? Parce que vous avez de l'énergie intérieure. Cette énergie intérieure, vous pouvez la propulser et la sortir même en dehors. Vous pouvez vous ravitailler de l'intérieur et faire face aux épreuves. Et je vais dire même le quatrième bénéfice, c'est que, ou la cause, ou la raison de faire ces retraites, c'est être en mesure de faire face à l'évolution du monde aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui dans un monde pervers, dans un monde à pleine mutation, et c'est dans des moments de prière personnelle que vous cristallisez votre identité. Avons-nous une identité? Nous sommes de Baptiste. Nous sommes de la CBK. Nous avons une certaine foi. Nous avons une certaine croyance. Mais comment protéger notre identité dans le monde aujourd'hui? Nous tous ici, nous avons la télé, n'est-ce pas? Nous suivons Béni TV, MC, tout ce que nous suivons là. Ce qui est montré sur la télévision, ce qui est présenté, n'est pas nécessairement en accord avec notre foi. Vrai ou faux? Mais comment vous allez être à mesure de ne pas être influencé par tout ce que vous voyez? Comment vous allez être à mesure de stabiliser votre identité? Ce que Joseph a fait, il arrive en Égypte, il n'y a pas parents, il n'y a pas famille. C'est-à-dire la culture de la famille de Jacob n'est pas présente en Égypte. Il est maintenant dans la maison de Potiphar. Qu'est-ce qui va les permettre de garder les valeurs de la maison? Il faut une force intérieure. Il dit, mais comment je vais pécher contre Dieu? Même si je suis loin de mon père, même si je suis loin de mes frères, il y a une idéologie qui est cristallisée à moi. Aujourd'hui, je vais commencer un séminaire les après-midi avec les ouvriers à l'Arche de l'Alliance. Et je serai en train de parler sur les influences qui sont en train d'arriver. Au point qu'à un moment donné, on a une église qui n'est plus, qui n'est pas l'église. En fait, qui n'est pas ce que vous pensez. Un moment, je vois dans l'église, je passe, les intérêts, je vois quelqu'un avec un chapelet. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu pries aussi avec ça. Il dit, non, je suis catholique. Oh. Donc, nous sommes avec toi depuis tout ce temps, mais tu es catholique. Je passe ailleurs, on nous fait un foufou. Et puis, voilà. Nous sommes avec un ami. Et malheureusement, pour lui, c'est le cochon. Il dit, mais, tu n'as toujours couru mon goût, prenons avec action de grâce. Il dit, non, moi, je suis protestant. Je suis un adventiste. Oh. Mais nous prions avec toi depuis 7 ans. Moi, je mange le cochon, toi, tu n'es... comme ça, parce que moi, vous, il y a quand même une histoire et puis beaucoup sonné dedans, quoi. Mais ceux qui accueillent tout ça, quand on est dans le monde de l'évangélisation, on a des histoires comme ça. Comment arriver à avoir une identité spirituelle? Comment arriver à avoir une identité de famille? Si un enfant quitte votre famille, il doit avoir une identité. Notre famille, c'est comme ça que ça se passe. Comment garder cette identité? Comment garder cette famille-là? C'est quand on a des moments de retraite. D'abord, au niveau personnel, qu'on peut connaître ses valeurs. Puis-je poser une question? Est-ce que vous avez des valeurs qui sont attachées à vous? Dites-moi, c'est ce que je suis. Moi, c'est comme ça que je réfléchis. Par rapport à ma foi, c'est comme ça que je pense. Vous devez avoir maintenant des moments personnels de prière, des moments personnels de méditation, des moments personnels de réflexion qui vous permet de revenir sur les bonnes raisons de vos motivations, les bonnes raisons de votre foi et les cristalliser. Et quand vous sortez là dehors, les vents ne vont pas vous emporter. L'apôtre Paul dit, Dieu a été établi de ministre de la parole. Éphésiens chapitre 4, 11 à 16. Dieu a établi de ministre de la parole. Pasteur, c'est pas moi. Il les a établis afin que l'église ne soit pas bâillée. Soit des hommes et des femmes stables dans leur foi. Mais notre foi est menacée. Vous ne demandez pas ça. Dès que vous êtes obligé d'être sur WhatsApp, il y a des choses, des groupes, on vous envoie des informations dont vous n'avez pas besoin. Qu'est-ce qui vous permet d'être à mesure, d'être séparé de toutes ces informations qu'on vous donne? C'est quand vous avez des moments personnels où vous cristallisez vos convictions, vous cristallisez votre foi, vous cristallisez votre vision, que vous allez y arriver. Alléluia. Et ces moments de retraite, une conviction et une foi et une expérience avec Dieu. Il nous faut quitter la foule. Il nous faut quitter le groupe et aller à l'écart. Même évaluer notre foi. Même évaluer notre chemin avec Dieu. Évaluer notre parcours avec Dieu. Les bonnes choses qui nous soutiennent viendront de ces moments de retraite. Jésus dit à ses apôtres, allons de l'autre côté de la mer, allons de l'autre bord. Précédez-moi, je crois qu'il y avait un problème protocolaire. Tous les apôtres sont partis et la Bible dit, on laisse Jésus renvoyer la foule. Il renvoie la foule, après avoir renvoyé la foule, il va à la montagne. Jésus avait besoin d'être seul avec Dieu. Lui, il était Dieu, mais il avait des moments de prier seul avec Dieu. Et quand il prie seul, c'est là qu'il a la capacité de marcher sur les eaux dans la tempête. La tempête du monde aujourd'hui, le matérialisme qui est en train d'emporter le monde aujourd'hui, va aider, disons, va être résisté par ceux-là qui Alléluia. Nous sommes dans un monde agité. Et parfois, cette agitation, vous la rencontrez seule sur votre mer. Et vous devez avoir de l'énergie personnelle, intérieure. Et Dieu vous mettra toujours dans un coin où vous devez répondre seul. Faire preuve de votre foi seul. Et Jésus marchait sur les eaux. La tempête est là. L'eau est là. L'eau, c'était déjà un problème. Même s'il n'y a pas de tempête, qui va marcher sur ça? Sans bateau, sans pirogue, qui va le faire? Et aussi, il y a maintenant la tempête. Et Jésus marche calmement dans la tempête, sur l'eau. Et Jésus rencontre les apôtres. Il les voit de loin. Ils l'ont laissé de l'autre côté, mais on voit l'homme en train de marcher sur l'eau. Quand on voit Jésus marcher, ils sont paniqués. C'est-à-dire, ils sont à face de la tempête et ils sont à face d'un fantôme. Nous périssons. Et Jésus dit, n'ayez pas peur sur moi. Il va crier. J'aime l'attitude de Pierre. Il dit, si c'est toi, permets que j'aille vers toi. Là, vous voyez deux églises qui sont nées. Parce que tous sont sortis. Aujourd'hui, nous avons des églises. Comme on a dit, il y avait 10 vierges. Dans Matthieu 25 et à 10, 10 vierges. Toutes étaient vierges. Toutes sortaient pour rencontrer l'époux. Même objectif. Même pureté. Sainteté. Tout. Elles sortaient. Elles n'ont pas de mauvaises intentions, mais ça n'a pas empêché qu'il y ait des sages et des folles. Parce que la folie va se manifester quand il y aura les ténèbres. C'est-à-dire quand il y aura des tempêtes, quand il y aura des problèmes, quand il y aura des difficultés, on saura qui est sage. Voyez-vous quand on est là, est-ce qu'on peut savoir même que nous pouvons faire des péchés? Si mon nom est comme ça, est-ce que vous ne pouvez pas gagner? Mon amour. Regarde celui qui est à côté de toi. Tu vas voir la sainteté. La virginité est là. Nous sommes venus à la rencontre de Dieu ce matin. Nous sommes venus écouter le roi de notre vie. Nous sommes venus le célébrer. Mais où est-ce qu'on va voir la folie? C'est quand le noir arrive. Quand la tempête est arrivée. Quand le ténèbre est arrivé, il fallait allumer les lampes. Toutes les femmes avaient des lampes. Depuis la journée, on voit chacun avec sa lampe. Mais ça, c'est quoi, Shabbat? Eh, amouna pétrole. Oh, comment toi aussi tu peux avoir une lampe sans pétrole? C'est là que les questions se posent. Et c'était des pétroles qu'on ne peut pas distribuer. Oh, donnez-nous de votre huile. Ça ne se distribue pas. Vous pensez que 10 vierges, on peut avoir du mal à marcher avec 5 lampes? Parce que 5 avaient des lampes. Est-ce que Matala yaba tout à l'heure? Mais c'était une lampe interne. C'était une lumière intérieure qu'on ne peut pas partager. Cette lumière, c'est une lumière personnelle. C'est une lumière intérieure. Ça veut dire une relation personnelle avec Dieu. Une révélation personnelle de Dieu. Parce que la lampe, c'est déjà la parole au plan général. Mais la lumière, c'est la révélation. C'est le psaume 119. Le verset 5, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Mais quand vous allez au verset 130, il dit, la révélation de ta parole est claire maintenant. J'ai la parole, mais il faut la révélation à l'intérieur de la parole pour me guider. Vous aurez la révélation de Dieu dans des moments de retraite. Et là, vous allez faire la différence. Vous allez résister. Même quand tout ne marche pas, vous direz, le Seigneur à qui je crois se révélera. Même à la dernière minute, il se révélera. Même quand le plus proche va vous dire, maudissez Dieu, vous allez dire, je ne vais pas le maudire. Mon rédempteur se lèvera le dernier. Je le connais, je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne sais pas comment défendre ma foi. Mais dans mon cœur, il y a une conviction qui est là. Il y a une lumière qui peut me conduire. Quand tout est noir, quand tout saute contre moi, quand personne ne me soutient, je vais suivre un chemin parce que je sens une lumière à l'intérieur. Ça s'obtient dans des retraites. Et c'est là que nous voyons Pierre sur la mer. Il dit non, je vais aller vers toi. Pendant ce temps, tous sont apôtres. Mais il y a maintenant deux catégories d'apôtres. Il y a des apôtres qui restent dans la communauté qu'on appelle barque. Ils sont dans la barque, ils attendent Jésus. Ils attendent que Jésus monte dedans et qu'il amène Jésus dans leur religion. Qu'il amène Jésus dans leur façon de voir les choses. Mais Pierre dit, moi je ne veux pas attendre ici. Le Dieu à qui j'ai cru, il marche sur l'eau. C'est l'homme-là qui m'a dit, laisse les poissons, laisse la pêche faire de toi un pêcheur d'hommes. Il est en train de marcher sur l'eau, je vais le suivre là-bas. Et il dit, si c'est toi, je vais aller vers toi. En fait, il est en train de dire, je quitte le groupe. Je dois vivre des choses que tu vis. Tu viens d'une retraite. Tu viens d'une montagne. Tu nous as renvoyés. Tu nous as chassés. Tu nous as dit, allez de l'avant. Allez d'abord, je vais vous suivre. Tu Je vais vivre la même chose. Je vais aller vers. Je vais aller vers cette vie-là de retraite. Cette vie-là d'intimité avec Dieu. Et il va commencer à marcher sur l'eau. Et pendant qu'il marche, ça ne m'intéresse pas qu'il est en train de défoncer. Tout ce qui m'intéresse, c'est que c'est un homme qui a voulu faire la différence. Il a voulu vivre la parole. Merci. Il a voulu vivre la parole de Dieu. Expérimenter la parole. Vous devez avoir une bataille, pas contre vos ennemis, pas contre les gens. Ayez une bataille avec la parole de Dieu. Battez-vous avec la parole. Prenez un verset biblique, dites, je dois vivre cette écriture. Je dois vivre ça. C'est la seule avec Dieu. Et il y en a ceux qui ont vécu ça. Il dit, Seigneur, j'ai besoin. La Bible dit, tu parles. Demain, je vais parler d'une retraite pour écouter Dieu. La retraite qui vous permet d'écouter Dieu. Vous dites, moi, Seigneur, je dois écouter. Ni mais ce qu'il y a de amis. Les gens m'ont dit des conseils, je suis confus. Je veux t'écouter. La Bible dit, vous attendrez derrière vous une voix qui vous dira, voici le chemin. Sur base de cette écriture, je fais. Et à un moment donné, quand l'écriture s'accomplit, personne ne peut la délocaliser de votre cœur. Personne. Pierre est sorti. Et vous savez, quand il est rentré dans le bateau avec Jésus, la Bible dit, tous se prosternèrent et commencèrent à adorer Jésus. Vous vous imaginez que Pierre était dans quelle position? La Bible ne nous dit rien, donc c'est juste une méditation. Ceux qui étaient dans le bateau ont commencé à adorer Jésus. Mais Jésus revient avec Pierre. Ils entrent dans la barque. Alors, vous trouvez Pierre en train d'adorer avec eux ou... Pierre est dans quelle position? Même s'il se met à genoux, est-ce que ses genoux disent la même chose que les genoux de ceux-là? Je crois que si Pierre se met à genoux, il va adorer pour des choses. Il va adorer Jésus parce qu'il est Dieu et il l'a découvert. Mais il va adorer Jésus parce qu'il vient d'avoir aussi une expérience de marcher sur l'eau. En tout cas, Pierre peut dire, voici, quand on est sur l'eau, c'est ce qu'on ressent. Les autres peuvent dire, oh non, l'icosa imani, ulianza kushukandani amai. Il va vous dire, mais vous avez déjà vu quelqu'un en train de défausser dans l'eau? Je devais aller, pshu. Moi j'ai faussé. C'est une autre révélation. Pierre, alikuwa na shuka mumai pour le pole. Unawaza bile binafanyika. Si vous demandez à Archimède, il va vous dire, il y a une autre loi. Ça, je ne connais pas. Quelque chose qui est lourd devait entrer. Pierre entrait doucement parce que c'est aussi notre expérience. Gloire soit rendue à notre Dieu. Les hommes et les femmes qui se retirent de la foule,
vont vivre des choses avec le Seigneur. Et ils auront quelque chose à dire à Dieu. Et eux ne seront pas des adorateurs simples, mais ce sera des gens qui provoquent l'adoration. Dieu n'a pas besoin de gens qui sont à genoux pour l'adorer à tout moment. Il a besoin de gens qui engendrent l'adoration, des gens qui provoquent l'adoration. Vous arrivez dans une communauté, dans une famille, dans une société, à cause de votre intimité avec Dieu, vous dégagez l'adoration. Finet raconte son histoire. Il pouvait entrer dans une entreprise, et les machines bloquent, c'est pas moi, les gens commencent à se repentir. Une atmosphère qui l'accompagne. Quand Jésus a guéri, disons qu'à Pierre et Jean montaient au temple, ils ont guéri les boiteux qui étaient là-bas. Les boiteux entraient dans le temple. C'était malheureux pour celui qui était prévu à la prédication ces jours-là. Même le modérateur, il était malheureux parce que l'atmosphère a changé. Les gens ne regardaient plus à la chair, Banangalia ou les boiteux. Et ils ont commencé à adorer sans modérateur. Prédication, il est si qu'un arabique, culte en arabique, parce qu'il y avait une personne qui venait de vivre une expérience. Dieu n'attend pas de vous une adoration. Il attend de vous le dégagement d'une adoration. Et quand vous avez développé votre vie personnelle avec Dieu, vous arrivez au milieu des gens, vous pouvez apporter la vie que vous avez eue dans le moment personnel. Alléluia. J'aimerais que tu inclines ta tête dans la prière et que tu dises, Seigneur, j'ai soif de marcher sur l'eau avec toi. J'ai soif de quitter cette barque. Je ne sais pas vous êtes dans quelle barque. Ça peut être la barque de votre société, la barque d'une certaine mentalité qui est là. Et Dieu vous demande de quitter cette barque et d'aller vers Jésus. De quitter votre stabilité, de quitter ce qui vous, dans votre confort, et de dire, Seigneur, je vais me retirer pour vivre quelque chose de différent. Je vais me retirer pour vivre une autre vie. Je vais me retirer pour avoir une autre expérience. S'il te plaît, Seigneur, j'en ai besoin. Je cherche cela. Commence à prier et à demander à Dieu de le faire. Il est celui qui écoute la prière. Je sens quelqu'un qui est en train de dire dans son cœur, je suis fatigué avec cette routine. On fait la même chose dans l'entreprise. On fait face au même problème. Mais là, j'ai besoin de vivre une autre dimension. J'ai besoin de vivre une autre expérience. J'ai besoin de parler un autre langage. J'ai besoin d'avoir un autre témoignage. Dieu n'a pas cessé de faire des choses. Il peut encore enrichir notre expérience par de nouvelles choses. Il dit, si vous me demandez quelque chose, je le ferai. Tu peux demander à Dieu une autre expérience, une autre chose de plus pour toi, pour ta maison. Et tu peux dire, Seigneur, je vais me retirer. Dans la prière, je vais réfléchir sur ma vie. Je vais me retirer dans la réflexion. Je vais me retirer dans la méditation. Je vais aller méditer cette parole. Je vais aller méditer tel verset biblique. Je veux que cela revête la chair dans ma vie. Et le Seigneur le fera. Seigneur, merci pour la vie que tu nous communiques ce matin. Merci pour le Saint-Esprit qui nous révolutionne et qui nous pousse à aller méditer. Méditer sur nos vies. Méditer sur nos victoires. Pour changer cela à principe, méditer sur nos échecs, pour changer cela à sagesse. À méditer sur ta parole pour la vivre. Et voici que nous sommes dans une barque qui est basculée, une barque qui est bouleversée. Sur notre mer agitée, sur notre monde agité. Avec Corona, avec les problèmes économiques, les problèmes de santé. Nous voulons vivre une expérience sur la mer, agitée avec toi. Seigneur, retire-nous, donne-nous ce cœur. Montre à chacun l'endroit où il doit se retirer et comment il va le faire. Et fais en sorte que, Seigneur, il te rencontre sur son eau. Qu'il te rencontre sur l'agitation autour de sa vie. Qu'il te rencontre, Seigneur. Je prie pour ce cœur qui est en train de soupirer auprès d'une expérience avec toi. Tu es le Dieu qui se révèle. Tu as dit, je me révélerai à vous. Personne ne peut te chercher et te trouver. Mais toi, tu décides de te révéler. Révèle-toi, Seigneur, à nous. Révèle-toi à tout celui qui est ici et qui a soif de toi. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.